Chapitre 3 La fin d'Amar Soin. Je n'avais plus, poursuivit Père Saint-Ain, qu'une seule idée en tête, retrouver l'admirable fille dont la danse m'avait mis l'âme en émoi. Et pour arriver à mes fins, j'entrepris de fréquenter les lieux où se réunissent toutes ces extraordinaires épaves coloniales qui viennent échouer à Paris de tous les coins du globe. Autant chercher une épingle dans une botte de paille qu'une petite danseuse dans ce tumultueux Paris. Mais j'étais amoureux et je ne doutais pas qu'un dieu ne m'apportât bientôt un secours imprévu. Que de caboulots équivoques, que de bars louches j'ai fréquenté. Il suffisait que trois vieux marsouins tapés par le soleil, que deux excentriques basanés eussent élu domicile dans tel coin perdu de la grande ville, pour qu'aussitôt, armé du zèle du néophyte, je m'y rendisse. On m'avait notamment signalé un petit mastroquet situé là-bas, dans le lointain quartier des Gobelins, rue de la Butte aux Cailles, au sergent Bobillot. On y servait des mélanges savamment dosés d'absinthe et de rhum, fort appréciés de la clientèle. Rengagé de la caserne de l'Oursine, fonctionnaires coloniaux en congé ou à la retraite, nègres et mulâtres, poitrinaires et alcooliques. Dans la petite salle enfumée qui retentissait du sifflet aigu du percolateur, d'interminables parties de manie s'échangeaient sous l'œil vigilant de M. Ernest, le patron du sergent Bobillot, un ancien marsouin dont la poitrine s'émaillait de médailles militaires et coloniales. Il n'était pas rare que les disputes éclatassent. Le soleil rend irascible ceux qui ont reçu le coup de bambou, et de temps en temps, un visage au teint jaune se convulsait. « Léomé Abaya !» disait l'un. « Soloyac !» répondait l'autre. Et les poings s'abattaient rudement sur la table, et tout s'apaisait invariablement par ces mots jetés par les adversaires au dévoué M. Ernest. « Patron, les deux verres bien tracés, c'est ma tournée !» Un ami m'avait signalé un vieil habitué du sergent Bobillot, soldat de première classe, retraité de l'armée coloniale, qui avait passé son existence en Chine, au Tonkin, au Sénégal, avec quelques intermèdes à Toulon, Brest et Cherbourg. Ivrogne invétéré, il vivait aujourd'hui dans ne sait quel mystérieux subside. Des curiosités coloniales, habilement vendues, lui avaient procuré quelques petits bénéfices. Il en retirait également d'autres de la narration de ses plus sensationnelles aventures. Des commerçants du quartier l'invitaient à dîner pour lui faire raconter ses campagnes et donner ainsi à leur fils des leçons de patriotisme et d'énergie. Dans certaines maisons louches de la Glacière, ces dames raffolaient des passionnantes histoires que le vieux marsouin mimait expressivement et dont le sang, le soleil, la fièvre et les mauvais lieux formaient invariablement le fond du tableau. Quand je manquis d'Yves Guéguen au sergent Bobillot, plusieurs manieurs s'interrompirent pour me renseigner aimablement. C'est-il Guéguen, Yves, que vous demandez, monsieur? Le voilà malade, le pauvre gars. Il a les fièvres, ce qu'on dit. Mais vous pouvez aller le voir, monsieur. Il habite à côté, dans une petite chambre, au 5e. Allez donc. Là, oui, oui, dans cette bâtisse. C'est ça même, allez, frappez fort à sa porte. Je grimpai, en effet, les 5 étages d'un escalier assez sale, dont les seaux hygiéniques et d'autres ustensiles de toilette encombraient les paliers, et je m'arrêtai devant une porte sur laquelle un bout de papier était collé, portant ces mots tracés d'une écriture à la fois maladroite et appliquée, « Frappez fort !» J'obéis, le bruit d'une plainte parvint à mon oreille. Je frappai plus fort, et n'entendant aucune réponse, je pris le parti d'entrer. Un spectacle assez étrange et assez émouvant s'offrit à ma vue. La chambre qu'habitait Yves Guéguen était un véritable capharnaüm. Une marchande de bric-à-brac n'eût pas dédaigné cet asile. Des coquillages poudreux et bréchés, de grossières statuettes de bois, des calebasses rugueuses, des poteries aux couleurs vives, des branches salies, des morceaux d'étoffe effilochés, des cocos sculptés encombraient une table boiteuse sur laquelle gisait aussi une casserole à demi remplie d'un reste de licot, des fers fidèles, des verres fêlés, des bouteilles pansues pleines de cognac et de rhum. Au mur étaient accrochés des pagaies, des flèches barbares, sans nul doute empoisonnées, des arbres, des lances impressionnantes, armes de peuplades sauvages. Sur un rocking chair délabré, des vêtements, du linge douteux s'étalaient. Pour compléter le tableau, un petit lit de fer aux draps gris, recouvert d'une couverture en loques, garnissait le coin de la pièce, et sur ce lit, un grand diable à moitié nu s'agitait. Sa figure osseuse et jaune s'éclairait de la flamme de deux yeux fébriles, et son torse maigre se dressait vers moi, pareil à celui des fakirs de l'Inde. J'avais devant moi Yves Guéguen. Mais le malheureux homme, tout en me regardant, ne me voyait point. La fièvre faisait trembler son corps décharné, et le délire chavirait sa pauvre cervelle. Il laissait s'échapper des mots haletants d'une voix rauque, et j'assistais ainsi, dans ce capharnaüm colonial où flottaient les relents d'épices, de plantes séchées et de fritures rances, aux divagations du marsouin qui, dans sa petite chambre sans lumière, revivait halluciné des épisodes de sa vie aventureuse. « Amenez le sampan !» s'écriait-il. « La baie d'Along est couverte de brume, mais nous aborderons quand même à la plage désignée. » « Où es-tu, Tinam ? Entends ! Les chiens jappent à la lune. Le sergent est endormi et les miliciens ronflent au bord de la rivière. Quelle douce nuit nous allons passer ! Nous avons du thé et le boy a disposé sur le plateau de lac la petite lampe à huile, la pipe, le fourneau, les aiguilles et le pot de corde où se coagule l'opium. Oui, encore une pipe, Tinam. « Oh, je suis blanc, je flotte, mais pourquoi le dragon nuage-t-il, mange-t-il le nuage ? Comment le docteur Diel vous attaque ? Vite, sac au dos, marchons doucement dans la forêt, pas de quartier, à coups de baïonnette, et ne craignez pas les coupes-coupes des pirates, ils sont pas dangereux. Oh, qu'il fait chaud, il n'y a pas un souffle, la terre se fendille. » C'est comme du plomb fondu qui tomberait du ciel bleu. Attention, n'enlevez pas vos casques surtout. Le soleil vous foudroierait. Marchez, marchez. Il n'y a plus que le royaume à franchir pour être en plein chez les pirates. Ah, mon Dieu, voilà ce pauvre Damien qui tombe. Les pirates ont donc des fusils. Hardi les gars, vengez le camarade. Ah, miséricorde, c'est mon tour. Je suis touché, oh, je peux plus avancer, mon sang coule. » Le visionnaire se tendait sur un grabat. Les yeux dilatés fixaient la muraille en face de lui, comme s'il voyait les champs tonkinois desséchés par le soleil et les miliciens s'affaisser sanglants sous le ciel torride. Cette humble pièce, pauvrement éclairée par un jour terne et blafard, encombrée d'objets poudreux et hétéroclites, m'apparaissait soudain illuminé de l'éclatante lumière de l'Orient. Et pendant que le vieux marsouin gisait convulsé et épuisé sur son lit, je sentais la brûlure du grand soleil, j'aspirais les senteurs épicées du sol tonkinois, j'entendais les cris des blessés, les clameurs guerrières des pirates. Et c'est poursuivi par cette vision coloniale en plein faubourg parisien que je m'enfuis de la chambre où Yves Guéguen suffoquait. Chapitre 4. Un ami imprévu. Je rentrais un soir lassé et d'assez mauvaise humeur parce qu'une piste sur laquelle j'avais fondé de grands espoirs m'avait encore une fois déçu. La nuit était complètement tombée, Un souffle tiède agitait les rameaux des arbres du boulevard Saint-Germain que je suivais pour gagner mon domicile qui se trouvait alors place de Fürstenberg. J'aime ce quartier. Il est calme et vieillot. La présence de Saint-Germain-des-Prés semble lénifier les maisons avoisinantes que l'on croirait baignées dans une atmosphère monacale. La minuscule place de Fürstenberg, elle-même est charmante, avec ses quelques maigres arbustes, dont la principale raison d'être consiste à servir de but aux enfants qui jouent paisiblement à l'abri des bicyclettes et des voitures. Les places Gambetta ou Saint-Exupère, en province, ne sont pas plus tranquilles. Parfois, dans la journée, des marchands des quatre saisons qui, carrefour de Bucci, poussent une pointe jusqu'à la petite place, lui donnent quelque animation en permettant aux ménagères de renouveler leurs provisions sans se déranger sur le pas même de leur porte. Parfois, quand un rayon de lune s'attardait sur les marronniers de la place, je me plaisais à goûter le charme de cette paix et de cette intimité au milieu de l'agitation parisienne. Mais ce soir, je ne prêtais nulle attention à ce décor familier. Mes échecs répétés m'exaspéraient. Et comme un gamin qui s'obstine devant un jouet que lui refusent ses parents, je me butais devant la malingre impassibilité du destin. Je me dirigeais donc tout droit vers mon logis, quand une légère plainte provenant d'une forme affalée sur un banc de la petite place attira mon attention. Enveloppé dans un large manteau élimé, un jeune homme, la tête dans ses mains, gémissait faiblement. Je m'approchai de lui. Son attitude prostrée avait éveillé ma curiosité sympathique. Je posai doucement la main sur l'épaule du malheureux. À mon contact, il leva la tête. Deux grands yeux noirs flambaient dans un visage pâle et amaigri. Je fus frappé par le type étrange de ce jeune homme, dont le regard profond me troubla singulièrement. « Qu'avez-vous ? » M'enquis-je avec sollicitude. « Vous me semblez malade. Voyons, il ne faut pas rester ainsi en plein air. » Ce jeune homme était correctement vêtu. Ses habits, malgré leur pauvreté, dénotaient une élégance native et discrète, que ses paroles ne démentaient point. « Monsieur, me confia-t-il avec gêne, « je suis honteux d'être surpris dans un pareil état de dépression. Oh, je vais vous paraître bien romanesque. Cependant, il n'y a pas que dans les romans que l'on rencontre des jeunes gens de bonne famille mourant de faim. » Mon interlocuteur esquissait un maigre sourire. « Je dois vous l'avouer, poursuivit-il, j'ai pas mangé depuis 2 jours. »« Mon pauvre petit, m'écriai-je, car le jeune homme était si frêle qu'il paraissait à peine sorti de l'enfance. » Venez vite, allez, suivez-moi, vous allez vous restaurer. Je conduisis mon invité dans un cabinet de travail où je lui apportai moi-même un sandwich, 2 petits fours et un flacon de muscat. Aux lumières, je pus l'examiner à loisir. Son air de distinction m'étonna. Il mangeait avec une correction qu'on ne s'attendait pas à rencontrer chez un garçon trouvé à demi-mort de faim sur le banc d'une place publique. Il devait certainement être étranger. Son teint mat et bronzé était celui de quelqu'un dont l'enfance est écoulée sous un ciel ardent, et ses yeux noirs et veloutés, imperceptiblement relevés vers les tempes, témoignaient d'une origine exotique. Tout en prenant soin que mon protégé recouvrât ses forces, je tâchais d'obtenir de lui quelques renseignements sur son existence, car enfin, ce jeune homme paraissait d'une excellente famille. Comment avait-il pu être réduit à une extrémité aussi pénible que celle où j'avais trouvé? Mais mon hôte, avec insistance, dérobait à mes questions. Il ne répondait pas ou bien éludait mes demandes. On lui dit que son passé cachait de douloureuses aventures dont la seule évocation lui était pénible. Quel que fût mon légitime sentiment de curiosité, j'aurais eu scrupule à insister. Les monosyllabes embarrassées qu'il laissait échapper traduisaient de sa part une telle gêne que, détournant moi-même le cours de la conversation, je l'invitais sans plus tarder à se reposer. Il en avait besoin, ses yeux papillotaient, sa tête lassée, quelque effort qu'il fît pour conserver une attitude convenable, retombait sur sa poitrine. Le malheureux garçon m'inspirait une vraie pitié. Je me sentais d'ailleurs attiré vers lui par une sympathie irraisonnée. Il m'aurait certes été bien difficile de dire où je l'avais rencontré, et cependant, ses traits ne m'étaient point inconnus. Il me rappelait un visage quelque part aperçu. Ses yeux, largement fendus et ce teint bronzé, présentait une ressemblance indéniable avec d'autres yeux, avec un autre teint. Le seul renseignement que je pus obtenir de lui me confirma dans l'hypothèse que j'avais mise sur son origine exotique. Bien que la température fût tiède, il grelottait. « Quoi donc, vous avez la fièvre, mon ami ?»« Oh, excusez-moi, je suis frileux à un point, comme vous ne sauriez s'imaginer. » Je ne suis pas habitué à vos climats brumeux. Ah, vous êtes né dans les pays chauds? Eh oui, c'est dans les îles de la Sonde que j'ai vu le jour. Je garde ma vie dans ce pays ensoleillé, une nostalgie morale et un malaise physique que je crois incurable. Tandis que me parlait mon malheureux hôte, j'imaginais des forêts de palmiers se découpant sur le ciel turquoise, des savanes agitées par la brise, des couchers de soleil sanglants sur des fleuves encombrés de roseaux. Puis ces tableaux s'estompaient devant mon regard, et surgissant de brumes vaporeuses, j'apercevais une image longtemps chérie qui se précisait peu à peu dans mon esprit, dans un développement de soie choyante, une forme svelte et flexible tournoyait ainsi qu'une corolle agitée par la brise. Chapitre 5. Les affinités électives. Les enfants trouvés déçoivent souvent, paraît-il, les espoirs de leurs parents. Les bienfaits, quoi qu'en dise le fabuliste, sont souvent perdus. Je dois pourtant rendre hommage à la perspicacité du bonhomme, car je n'eus certes pas à me repentir de mon geste généreux à l'égard du jeune inconnu que j'avais recueilli. Explique les sympathies qu'il voudra. Nous renouvelions, Domingo et moi, le couple idéal, réalisé autrefois par Montaigne et la Boétie. Le lendemain matin du jour où je l'avais recueilli, ce jeune homme me témoigna une si grande vive reconnaissance, disproportionnée d'ailleurs avec le service que je lui avais rendu, que j'en fus infiniment touché. Aussi, lorsque, timide et avec une nuance de regret dans la voix, il m'annonça « Maintenant, monsieur, je ne veux pas abuser plus longtemps de votre hospitalité. Vous m'avez accueilli avec une telle affection que je ne l'oublierai jamais. Cette atmosphère de calme et de bonté m'a été bien douce à respirer. Mais il faut m'en aller. Je suis un errant. Je viens de bien loin. Dans quel havre atterrirai-je ? » Je ne pus m'empêcher de lui répondre. « Mais pourquoi continuer à vagabonder ? Pourquoi ne resteriez-vous pas avec moi ? » Les gens sérieux et pondérés me blâmeront. Comment, diront-ils, garder chez soi un inconnu dont on ignore la moralité ? Sans doute, manquai-je un peu de prudence, mais j'ai grande confiance dans les sentiments intuitifs. Et une telle force irraisonnée me poussait vers mon jeune compagnon que j'avais éprouvé à me séparer de lui un chagrin pareil à celui d'un amoureux déçu. Car, le fait est curieux à noter, c'était un étrange sentiment, aussi tendre et aussi troublant que l'amour, qui m'attirait vers Domingo. La solitude qui me pesait, surtout depuis que mon âme était occupée par la pensée de la mystérieuse danseuse, se trouvait adouci par la présence de mon nouvel ami. De tout temps, l'amitié me fut un grand refuge. Enfant, je m'étais lié avec un camarade plus âgé et nous passions à travailler et à lire ensemble des heures délicieuses. Domingo était si doux et si affable qu'il me semblait que je retrouvais avec lui mes impressions d'enfance. Il répondait à ma confiance par une confiance réciproque, et nos journées s'écoulaient avec une fraternelle douceur. Je me familiarisais peu à peu avec lui, et notre intimité croissait avec le temps, bien qu'à vrai dire il demeura fort réservé à l'égard de son origine. Mais le plaisir de la confidence m'a toujours paru si délicat que je ne résistais pas à faire partir part à mon jeune ami de la passion qui, depuis certains soirs, brûlait mon cœur. Et vous ne l'avez jamais retrouvé, votre fantomatique bayadère? Me demanda-t-il un jour. Oh, c'est pourtant point faute de l'avoir cherché. Et peut-être avez-vous mal dirigé vos investigations. Voulez-vous que nous les continuions ensemble? Je passais pour mascotte dans mon lointain pays. Allons à la recherche de votre bien-aimé. Qui sait si je ne pourrais vous porter chance? Une pareille proposition ne pouvait que me séduire. Autant mes recherches étaient fastidieuses et mes déceptions amères quand j'étais seul, autant la compagnie de Domingo me consolait de mes déboires. Nous partions dès le matin, explorant méthodiquement les quartiers les plus susceptibles de prêter asile à la perle rare de mes rêves. Que d'agréments ces promenades à deux! Les rues de Paris sont, pour qui sait voir, un merveilleux spectacle toujours renouvelé. Nous baguenaudions, Domingo et moi, comme des enfants en congé. J'en arrivais presque par moments à oublier le but de ces randonnées pour m'abandonner simplement à leur charme. C'était mon compagnon lui-même qui me rappelait à la réalité. Trois arbres rabougris, une maison dont la peinture s'écaillait, une enseigne bizarre à la porte d'un marchand de vin, éveillaient sa curiosité et il s'écriait: « Entrons ici, ne négligeons rien. Pourquoi cette cage bizarre ne contiendrait-elle pas votre oiseau bleu? » Nous visitâmes ainsi toutes les maisons de la rue des Rosiers, de la rue du Roi de Sicile et de toutes ses venelles voisines, qui exhalte un si ténébreux parfum d'exotisme. Nous bricolions chez les vendeurs de bric-à-brac, et parfois, la faim nous tenaillant, nous grignotions dans les boulangeries des gâteaux que nous allions ensuite arroser d'un démocratique petit noir avalé sur le zinc d'un mastroquet. Au soir de ces expéditions, Domingo, peu robuste, se fatiguait facilement. Il traînait la jambe et s'appuyait fraternellement sur mon bras. Je me réjouissais alors de cette intimité que je sentais chaque jour grandissante. Aucune expression de raillerie ne plissait ses traits quand je restais pesé à la suite d'une nouvelle déconvenue. C'était un écouteur infatigable que Domingo. Il prenait même plaisir, semblait-il, à m'entendre récélébrer les charmes fugitifs et à peine entrevue de ma beauté mystérieuse d'une nuit d'été. Ses longs cils recourbés voilaient ses yeux, dites-vous? Oui, un peu comme les vôtres, répliquai-je. Ses joues alors s'empourpraient et un léger sourire de contentement illuminait son visage. Le plus léger compliment de ma part lui procurait l'effet d'une goutte d'eau à une plante altérée. Sa sensibilité était extrême, et il avait pour moi des attentions d'une délicatesse quasi féminine. Personne, depuis que je vivais loin de ma famille, ne se souciait de ma santé. Domingo, au contraire, y veillait. Relevez le col de votre pardessus, mon ami. Ce brouillard est malsain, me dit-il un soir que nous avions erré dans les bouches de l'île Saint-Louis à la recherche de l'insaisissable, et que je m'étais arrêté sur les bords de la Seine pour contempler l'abside de Notre-Dame baignée par les dernières gloires du couchant. Et Domingo, désormais, était associé à mon existence. Rien ne pourrait m'en séparer. Quand vous aurez enfin mis la main sur votre dulcinée, ne faudra-t-il pas que je reparte ? Me confia-t-il un soir avec tristesse. Je lui serrai alors les mains en silence, mais avec tant d'émotion qu'une larme perla à ses paupières, tandis qu'il souriait mystérieusement.